pour saluer les gens. La dernière personne que j'ai saluée, c'était donc la tante Luce, la tante de Daphné. Et puis, on saura où reprendre les salutations tout à l'heure. Alors, prions un instant. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce moment que tu nous donnes afin de plonger nos regards dans ta parole, sachant, Seigneur, que cette parole est encore source de vie, de transformation, de direction et de directive pour nous aujourd'hui. Nous prions, Seigneur, que tu nous inspires, que ta parole trouve un terrain qui t'est propice, afin, Seigneur, qu'elle puisse s'enraciner en nous et qu'elle puisse porter le fruit pour lequel, Seigneur, elle est partagée. Ce matin, Seigneur, nous parlons encore une fois de la maison de l'Éternel, de ta maison, Dieu, de l'attitude que nous devrions avoir à l'approche de cette maison, de l'attitude que nous devrions avoir au sein de cette maison. Alors nous prions, Seigneur, que tu puisses oindre ces quelques moments par ton onction toute précieuse et que tu ouvres notre compréhension et notre pensée à ta pensée, ô Dieu. Bénis ma sœur et bénis mon frère qui se joignent à nous à l'instant. Bénis aussi tous ceux, Seigneur, qui entendront ou qui écouteront cet enseignement plus tard. Que la même grâce que tu déverses sur nous soit aussi déversée sur eux. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, une fois de plus, j'ai ma Bible ici, mais j'ai toutes mes notes avec mes versets ici devant moi. Donc, ne vous inquiétez pas si je ne vais pas sur la droite pour voir mes notes, mais si je reste avec les versets qui sont déjà inscrits ici. Le premier verset qu'on va voir, c'est donc dans le psaume 92 et le verset 13. 13 et 14 en fait, donc 92 versets 13 et 14 que je vais lire pour vous. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ici, on est obligé de faire un lien avec le premier chapitre de Psaume où on nous dit que celui qui se confie en l'Éternel est comme cette arbre qui est plantée près d'un courant d'eau et qui étire ses racines et qui, même dans la saison de sécheresse, continue à verdir et porte du fruit en toute saison. Et ici, on parle effectivement d'un lieu de croissance et d'un lieu d'éclosion. Ce verset, le verset 14, est divisé en deux parties. D'abord, planté dans la maison de l'Éternel, puis il prospère dans les parvis de notre Dieu. La première chose qu'on doit savoir, c'est que si je suis planté effectivement dans la maison de l'Éternel, je suis planté au bon endroit. Je suis enraciné au bon endroit et je dois faire ce travail pour m'enraciner encore davantage. On sait que la bonne semence qui arrive dans la bonne terre n'est pas rapide à croître comme la semence qui tombe dans la terre asséchée parmi les cailloux et qui ne prend pas le temps de s'enraciner. Ici, lorsqu'on parle de cette semence qui tombe dans la bonne terre, on parle ici de cette semence qui va prendre tout le temps nécessaire pour approfondir ses racines, mais de surcroît à cela, elle est aussi dans un endroit où elle peut bénéficier des meilleurs traitements. La maison de Dieu est cet endroit où nous apprenons, cet endroit où nous recevons nourriture spirituelle, cet endroit où nous recevons directives, non seulement pour nous en tant qu'individus, mais aussi pour nous en tant que groupe. Donc, en revenant à la maison, en s'enracinant à la maison, en étant planté dans la maison de Dieu, nous sommes effectivement au bon endroit. Et le terme « être planté » en hébreu, c'est le terme « shathal » qui s'écrit « S-H-A-T-H-A-L », je répète « S-H-A-T-H-A-L » qui veut dire « transplanté ». Donc, il a été pris d'un endroit et qui a été planté dans un autre. J'étais à l'extérieur de la maison, maintenant je suis dans la maison de l'Éternel, qui veut dire aussi enraciné et qui veut dire greffer. Donc greffer au territoire dans lequel nous sommes et greffer aussi aux autres arbres qui constituent la maison de Dieu. De surcroît au fait que tu sois planté dans la maison de l'Éternel, la Bible nous dit, David va nous dire, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Prospérer, le terme parach, P-A-R-A-C-H, P-A-R-A-C-H, qui veut dire bourgeonner, germer, fleurir, éclore et s'envoler. En fait, l'image que David voulait donner ici, la pensée que Dieu voulait véhiculer, c'est que lorsqu'on était effectivement planté dans la maison de Dieu, c'était aussi un endroit dans lequel nous devions et nous pouvions éclore. Et cet endroit est encore l'endroit où tu peux effectivement éclore pour être pleinement ce que tu es appelé à être. J'aurais juste une petite chose technique. Merci. Désolé. Donc, la maison de Dieu, dans ce premier verset, un lieu d'enracinement, un lieu d'établissement, un lieu de croissance et un lieu d'éclosion. C'est dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, au milieu de tes frères et de tes sœurs, que tu es appelé à éclore et à être pleinement cet arbre, cette plantation à la gloire de Dieu. Le chapitre suivant, psaume 93, le verset 5, nous dit « Tes témoignages sont entièrement véritables, la sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. » Ici, on vient de passer à une autre étape. Et les versets qui vont suivre dans ce qu'on va étudier ce matin vont tous aborder un même sujet quant à l'intégrité de celui qui est planté dans la maison de Dieu et à l'intégrité à laquelle chacun d'entre nous sommes appelés. Donc ici, on parle tout d'abord. Les témoignages de l'Éternel sont entièrement véritables. Témoignage, le terme EDA, E-D-A-H, E-D-A-H, qui veut vraiment dire des témoignages, mais pas simplement des témoignages comme on a l'habitude d'en donner à l'Église, où on rend grâce à Dieu et on explique les bienfaits de Dieu. Ici, ça a vraiment une portée légale. On parle de témoignages qui sont donnés dans un procès, dans une cause en justice. Donc ici, on est en train de dire que le témoignage de Dieu est entièrement véritable. Véritable, le terme aman qui veut dire confirmé, fidèle, établi, ferme, certain et digne de confiance. Ce que Dieu va émettre, ce qu'il va proclamer, ce qu'il va dire à ton sujet, à mon sujet, va être totalement juste. Lorsqu'on s'approche de Dieu, lorsqu'on s'approche de la maison de Dieu, on s'approche aussi d'un Dieu qui est juste, d'un Dieu de qui émane la justice. Notre Dieu est un juste juge. Il ne juge pas selon tout simplement une envie, une inclinaison, une perception futile comme l'homme pourrait avoir. Parfois, nous, en tant qu'humains, on juge les autres tout simplement avec un feeling que nous avons. Dieu juge parce qu'il connaît et parce qu'il sait totalement ce qui habite, ce qui constitue les hommes et les femmes qu'il a devant lui. De surcroît à ça, il va dire « La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. » Notre Seigneur, qui est un juste juge et pour qui la justice est une valeur primordiale, il impose aussi que ceux qui vont venir dans la maison de Dieu vivent dans la sanctification et dans la sainteté. La sainteté, le terme « kodesh » en hébreu, « k-o-d-e-s-h », je répète, « q-o-d-e-s-h », qui veut dire les sacrements les choses que Dieu a déclarées comme sacrées, les choses qui sont mises à part, être saint, quand on regarde l'étymologie du terme être saint ou être sanctifié, c'est quelqu'un ou quelque chose qui a été mis à part pour ne pas être taché, pour ne pas être rendu impur au contact des choses qui n'ont pas été purifiées. Donc Dieu est en train de dire que la sainteté, la sanctification, la pureté convient à ta maison. Lorsqu'on s'approche de Dieu, non seulement on découvre un Dieu qui est juste, un Dieu qui requiert la justice, mais aussi un Dieu qui requiert de la part de ceux qui s'approchent sanctification et sainteté. Pourquoi je fais la distinction entre sanctification et sainteté? Pour une raison toute simple. Parce que lorsqu'on découvre le Seigneur, lorsqu'on rencontre le Seigneur pour une toute première fois, nous ne sommes pas encore saints. Nous devons passer par ce processus de sanctification à travers le sang de Jésus, à travers le fait de donner notre existence à Dieu et d'avoir nos péchés qui sont pardonnés. Mais à moins que nos péchés ne soient pardonnés, on ne peut pas être saint. La sanctification nous amène, c'est ce processus, c'est cette transition qui nous amène d'un état de pécheur à un état de sanctifié, à un état de saint. Alors lorsque nous nous approchons de Dieu, nous nous approchons d'un Dieu qui requiert ce processus de sanctification dans ta vie et dans ma vie. Je vais juste il y avait une petite odeur de brûlé dans mais ça vient de l'extérieur, je suis désolé. Donc, notre Dieu requiert de notre part la sanctification et la sainteté. Il nous appelle, il nous amène à connaître la sanctification. Troisième verset dans le psaume 101, et comme vous avez vu, j'ai approché ma Bible pour être sûr d'être juste, d'accomplir toute justice moi-même. Donc, le psaume 101, le verset 7 nous dit: celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. On continue dans la pensée de justice, de sanctification et de sainteté. Ici, on nous dit que celui qui se livre à la fraude c'est le terme remia, donc R-E-M-I, Y-A-H, qui veut parler de relâchement, de laxisme, de tromperie, voire de trahison. Donc, ceux qui se livrent à la tromperie et à la trahison, tromperie, ça veut dire qu'ils manipulent quelqu'un pour le tromper. La trahison, ça veut dire qu'il ne vit pas selon les règles et selon les devoirs inhérents à son appartenance au peuple de Dieu. Donc, on nous dit ici que ceux qui se livrent à la fraude, à la tromperie, à la trahison, ne pourront pas habiter dans la maison de Dieu. Non seulement on a découvert un Dieu qui était juste, un Dieu qui demandait la pratique de la justice, ou le fait qu'on vive en accord avec la justice divine, mais de surcroît à cela, on apprend aussi à connaître un Dieu qui ne tolère ni la fraude, ni la tromperie. Donc, il veut l'honnêteté de notre part. Il veut que ce que nous soyons dans nos paroles, dans nos actions, soit honnête. Il ne veut pas des gens qui vivent deux vies. Une vie à l'église, une vie auprès de leurs frères et de leurs sœurs en la foi, et une vie différente lorsqu'ils sont au travail, lorsqu'ils sont, on va dire, dans la société laïque. Notre vie devrait être la même tant à l'église qu'en présence de nos frères, qu'en présence d'incroyant? Est-ce que tes paroles sont les mêmes? Est-ce qu'il y a des mots que tu utilises à l'extérieur que tu n'utilises pas à l'église? Est-ce qu'il y a des mots que tu utilises à l'extérieur que tu n'utilises pas auprès de tes frères et de tes sœurs en la foi? Si c'est le cas, tu as donc deux façons de vivre. Tu as une façon de vivre auprès des croyants, auprès des chrétiens, et tu as une autre façon de vivre lorsque tu es à l'extérieur et lorsque tu ne fréquentes pas des gens croyants, des gens chrétiens. Donc, ton langage, ta façon de faire, les choses que tu te permets de faire devraient être les mêmes tant chez les croyants que chez les non-croyants. Mais de surcroît à ça, il va même pousser la pensée plus loin. Il va dire, celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Dire, c'est déclarer, le terme dabar, D-A-B-A-R, donc déclarer, promettre, parler de ou émettre des mensonges. Mensonge, le terme sheker, S-H-E-Q-E-R, S-H-E-Q-U-Q-E-R, qui veut dire fausseté, parjure, parole vaine, parole qui déçoive. Ici, le terme important, parjure. La parjure, c'est le fait de donner un faux témoignage. Et tout à l'heure, on disait que le Seigneur, les témoignages du Seigneur, ce qu'il déclare, est totalement vrai, totalement véridique, et totalement digne de confiance. Il s'attend que nous, qui sommes ses enfants, nous qui voulons habiter dans sa présence, nous qui demeurons dans sa maison, il s'attend à ce que nos témoignages soient tout aussi empreints de vérité, de véracité. Et il nous dit que celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Ça veut dire que la présence de Dieu va être retirée à qui aime et pratique le mensonge. La Bible nous apprend, notamment dans l'Apocalypse, vers la fin de l'Apocalypse, il va y avoir un verset qui va dire « Dehors les chiens, les hypocrites, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. » On se rend compte que Dieu a une haine féroce contre le mensonge, contre la parjure. Alors ça devrait nous parler, certains d'entre nous, pratique encore le mensonge de façon récurrente, que ce soit pour embellir ma présentation en disant « moi j'ai été capable de faire telle ou telle chose », la personne va parler d'un exploit physique quant à courir le marathon, et puis elle va dire qu'elle est capable de courir le marathon et qu'elle l'a couru dans tel temps. Mais on se rend compte, lorsqu'on étudie la chose, et plutôt lorsque Dieu regarde la chose, le Seigneur sait qu'elle n'a jamais réussi à faire un tel temps. Mais il y a des personnes qui sont tout le temps en train d'embellir leur personne, leur personnage, avec des mensonges. Et ce faisant, Dieu ne peut tolérer la présence de cette personne en sa présence. Donc Dieu est en train de dire, si tu es hypocrite, si tu es traître, si tu pratiques la tromperie et de surcroît à cela, si tu pratiques le mensonge, si le mensonge est récurrent dans ta vie, Dieu va t'écarter. Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu juste, il est un Dieu de vérité. La Bible, et Jésus va le décrire lui-même, il va dire « Je suis la vérité, le chemin et la vie. » Je suis la vérité, le chemin et la vie. Si Jésus effectivement habite en toi, ben il ne peut pas y avoir deux maîtres. Il ne peut pas y avoir la vérité et le mensonge. Et si le mensonge perdure en toi, ben la présence de Dieu se retire. Parce que la Bible nous dit clairement, Jésus nous dit clairement, Dieu nous dit clairement, celui qui dit des mensonges ne subsistera pas, ne restera pas, ne durera pas, ne s'établira pas dans ma présence. Troisième verset pour ce matin, le psaume 116, le verset 18 et 19. Psaume 116, le verset 18 et 19. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel. Je répète le verset. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel. Qu'est-ce que David est en train de dire ici? Il dit, j'ai fait des vœux envers l'Éternel, j'ai pris un pacte envers l'Éternel, j'ai fait un serment envers Dieu, et ce serment, je vais l'accomplir. Cet engagement que j'ai pris à faire une chose, je vais accomplir cette chose. On continue dans cette même pensée de véracité, de vérité, d'intégrité. David dit, j'ai fait une promesse à Dieu, je vais la tenir. Lorsque nous nous approchons de Dieu, nous nous approchons d'un Dieu qui s'attend à ce que les promesses qui lui sont faites soient accomplies. Donc Dieu est en train de dire, pour toi et pour moi, mais si tu t'engages à quelque chose, je m'attends à ce que tu l'accomplisses. Et je me pose la question, en fait je ne me pose pas la question, je le sais. Combien de fois on a fait des vœux envers Dieu, mais on ne les a pas accomplis? Combien de fois on a dit, oui Seigneur, je vais faire telle chose, et on l'a fait pendant un certain temps, puis on a laissé tomber la chose, on a largué la chose. Ici, accomplir, c'est le terme shalom. Shalom veut dire accomplir une alliance de paix, un pacte, compléter une alliance de paix, exécuter une alliance de paix. Qu'est-ce que David est en train de dire? J'ai fait la paix avec Dieu, je suis en paix avec Dieu, mais je suis en paix avec lui pour accomplir mes pactes, pour accomplir mes serments. Il y a trop de personnes qui pensent que je suis en paix avec Dieu tout simplement pour vivre, comme on dit en bon québécois, gradure, pour vivre tout simplement comme si j'étais dans une colonie de vacances ou dans un club tout inclus de vacances au bord d'une piscine avec une petite boisson dans la main, des glaçons, et puis quand j'ai besoin de quelque chose, je claque des doigts et le Seigneur vient nous le donner. C'est pas ça. Lorsque je viens à Dieu, Dieu s'attend que les promesses que je lui ai faites de vivre pour lui, d'accomplir sa volonté, de le servir, il s'attend à ce que j'accomplisse effectivement ses vœux. Mais la chose qu'il nous dit ici, j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Donc, sous le regard des saints d'Israël, ça veut dire que le peuple de Dieu a le droit de regarder si j'accomplis oui ou non mon travail. Le peuple de Dieu a le droit de regarder si oui ou non tu accomplis ton travail. Nous n'avons pas plutôt la connaissance infuse, nous n'avons pas le discernement infus, et régulièrement, pour reconnaître si effectivement quelqu'un a fait son travail, ben on regarde le fruit du travail. Ces fruits-là s'observent, ces fruits-là se quantifient, ces fruits-là, on les qualifie aussi, ces fruits-là, on les sous-pèse. Donc le peuple de Dieu, oui, effectivement, a le droit de regarder, de commenter, de juger ton travail. Certains oublient ce qu'est l'ordination. Vous savez, lorsque quelqu'un rentre dans le ministère et on va prier pour lui pour ordonner au ministère quelqu'un. Certains pensent que c'est le début du chemin. En fait, l'ordination est tout simplement une reconnaissance de ce qui existe déjà dans la personne, est une reconnaissance du travail que la personne a déjà exécuté, une reconnaissance des fruits que la personne porte déjà, et à ces fruits-là, on dit « voici quel type de serviteur il est ». Donc, la Bible nous dit aussi que l'Église est à même de juger. Dans l'Église d'Antioche, lorsque Paul et Silas ont été appelés à faire autre chose, ben les anciens, les prophètes, les docteurs qui étaient là, ont reçu la parole de Dieu, ont prié et ont jugé que c'était bon, que c'était effectif et au fruit de Paul et de Silas, ils les ont effectivement relâchés pour l'œuvre à laquelle Dieu les avait appelés. Mais ils ont fait ce processus dans la réflexion, dans l'étude et dans la prière et dans le jeûne, la Bible va nous dire. Donc, les gens autour de toi ont le droit de regarder ton travail. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Et de surcroît, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel. Donc, non seulement le peuple de Dieu regarde ton travail, mais de surcroît à ça, tout Jérusalem regarde ton travail. Donc, ton travail pour Dieu doit être visible par Dieu, doit être visible par la maison de Dieu, par le peuple de Dieu, et doit être visible de surcroît aussi par le peuple qui t'environne, par tes contemporains, par la société civile. Donc, mon travail va être regardé, commenté et jugé par Dieu, par son peuple et par les inconvertis. Voilà pourquoi il était important, lorsqu'on parlait de Jésus, on a dit qu'il croissait en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et pour nous, c'est la même chose. Nous sommes des imitateurs de Christ. Nous devons croître devant Dieu et devant les hommes. Dernier verset pour aujourd'hui. Dans le psaume 118, le verset 26. « Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. » Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Donc, béni, un terme qu'on a déjà étudié à quelques reprises, barak, qui veut dire être agenouillé, saluer, louanger, encenser. Donc, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel, celui qui travaille au nom de l'Éternel, celui qui représente l'Éternel. Vous savez, lorsqu'on dit, on va les baptiser au nom de Jésus. Certains pensent que c'est une appellation qu'on met sur ces gens-là. Mais à la base, c'est pas vraiment cela. À la base, c'est parce que Jésus physiquement ne peut pas faire le travail, moi je le fais comme représentant de Jésus. Oui, je crois que tout ce qu'on fait doit être fait dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi on baptise aussi au nom de Jésus. Mais l'acte en soi est fait parce que nous représentons Jésus qui, lui, ne peut pas faire l'action. Au même titre où lorsque toi et moi, on se promène dans la ville et qu'on témoigne, on témoigne au nom de Jésus. On fait notre travail en représentation de Jésus. Mes actions, mes paroles, mes gestes, mes orientations devraient représenter Jésus. Et ici, on nous dit, celui qui va faire ce travail en représentation de l'Éternel doit être béni. Dieu va le bénir. Donc, bénédiction envers celui qui marche véritablement selon Dieu. Est-ce que je suis un vrai serviteur de Dieu ou est-ce que je suis un faux serviteur de Dieu? Est-ce que je fais vraiment mon travail de serviteur de Dieu ou je ne fais pas ce travail? Mais il va pousser même la pensée un peu plus loin. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Donc, non seulement la bénédiction vient de la part de Dieu pour celui qui marche véritablement selon les voies de Dieu, qui élève et qui représente dignement le nom de Dieu, mais de surcroît à ça, il y a un honneur qui est réservé aussi aux véritables serviteurs de Dieu. De par qui? De par la maison de Dieu. Nous vous bénissons de la maison de Dieu. Nous vous bénissons, nous, en tant que maison de Dieu. Et ici, c'est une notion importante. Le peuple de Dieu doit apprendre à bénir les véritables serviteurs de Dieu. Le peuple de Dieu doit apprendre à reconnaître. Mais une fois qu'on a reconnu, qu'on a éprouvé La semaine dernière, on parlait de ce verset, de se présenter devant Dieu comme un homme qui n'a point à rougir, comme un ouvrier éprouvé. Donc, une fois que tu as été éprouvé, une fois qu'il est reconnu qu'effectivement, tu n'as pas à rougir, ben, il est de la responsabilité de la maison de Dieu aussi de reconnaître ces personnes et de les honorer. Nous vous bénissons, le terme Barak, nous appelons la bénédiction de Dieu, nous louangeons et nous encensons votre travail. On n'est pas en train de louer ni d'adorer, mais on est en train de reconnaître et d'applaudir le travail que vous faites pour la maison de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a parlé d'intégrité. On a vu que notre Dieu est un Dieu juste, empreint de justice et dont les témoignages sont imbibés, empreints de vérité. On a vu que nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons aussi fuir la tromperie, fuir le mensonge pour pratiquer une vie remplie de vérité, une vie véritablement enclin envers Dieu et une vie qui est menée sous le regard et dans le respect des lois de Dieu. Donc, on nous a appelés aujourd'hui à être intègres et à travailler de façon intègre. Et la Bible et le Seigneur et l'exhortation de ce matin nous appellent aussi à encourager l'intégrité de la part de nos bien-aimés et de surcroît à ça, à applaudir aussi ceux qui travaillent avec intégrité. Alors, c'est ce qu'on avait pour aujourd'hui. Demain, on termine cette série sur la maison de Dieu dans le livre de Psaumes. Prions et après ça, on saluera quelques personnes. Alors, Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons de ce rappel que tu nous fais d'être des serviteurs et des servantes remplis d'intégrité. Notre Dieu est le juste juge. Notre Dieu haït, notre Dieu déteste la tromperie, la fraude, le mensonge. Et nous prions, Seigneur, que si ces choses habitaient en nous, que cela puisse être coupé, déraciné. Nous voulons laisser de côté, nous voulons abandonner toute fraude dans nos actions, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos gestes, dans nos comportements et dans nos habitudes. Nous voulons laisser de côté, abandonner, fuir le mensonge pour pratiquer, pour prononcer, pour vivre dans la vérité. Alors nous prions, Seigneur, pour ma sœur, pour mon frère, ce matin, et pour moi-même, que nous soyons des enfants de Dieu enclins à vivre dans le respect de tes lois divines et dans le respect de ta volonté et dans le respect de l'intégrité et de la vérité à laquelle tu nous appelles. Bénis-nous aujourd'hui, éclaire-nous, Seigneur, sur des sujets de notre vie qui ont besoin d'être nettoyés et lavés, et permets-nous aujourd'hui, Seigneur, de nous approcher de toi en toute vérité, afin, Seigneur, d'accomplir devant nos frères et devant aussi, Seigneur, toute la population, nos vœux envers l'Éternel. Nous honorons aujourd'hui, Seigneur, tes serviteurs qui pratiquent le ministère en toute justice et en toute vérité. Nous honorons aujourd'hui, Seigneur, tous tes serviteurs dans ta maison qui pratiquent et qui exécutent leur service dans toute la vérité, dans toute l'intégrité qui se doit. Et nous appelons ta bénédiction sur eux. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, quelques personnes à saluer ce matin. Dernière personne que nous avions saluée, je me rappelle, c'était le Pantelus. Donc, Gaël, Dieu te bénisse. Yvelin, bonjour. Gloria, je crois que je t'avais salué, mais Wenaning Barka, une fois de plus. Maggie, Dieu vous bénisse. Chanel, bonjour. Natacha, Indiren, soyez bénis. La sœur Nina, le frère Rigoberto, bonjour. La sœur De Gazon, le frère Gilbert, Dieu vous bénisse tous deux. La sœur Flori, le frère Louis, bonjour. Raymond, bonjour. Ramon, on t'a salué. Yves Mondre, bonjour. Euh, Ginette, bonjour. Méreste, bonjour. Effectivement, le Burkina Faso, c'est le nom du Burkina Faso ou l'appellation qu'on donne, c'est le pays de l'homme intègre. Effectivement, c'est un beau nom, surtout quand effectivement il porte justement son nom. Donc oui, que Dieu vous bénisse là-bas au Burkina, Gloria. La sœur Susanna, Dieu la bendiga. Maria, ça c'est Consuelo, bonjour. Andrés, bonjour. Donc je pense que c'est tout pour ce matin. On vous rappelle les rendez-vous demain, 8h30, une fois de plus, notre bénédiction matinale. Et par la suite, demain soir à 19h, notre temps de prière et d'intercession. Et à 20h, les jeunes, vous avez rendez-vous sur la plateforme Zoom, je crois, avec l'équipe jeunesse. Donc, demain matin, 8h30, dernière méditation de la semaine. Et puis demain soir, prière à 19h. Et pour les jeunes gens, vous avez votre réunion Zoom. Donc sur ce, permettez-moi de vous souhaiter une bonne journée, que Dieu vous bénisse et on se retrouve demain matin. Au revoir à tous.